Merci, merci beaucoup pour cette introduction. Merci de cette invitation. C'est évidemment un plaisir et un honneur de présenter quelques résultats de mon équipe de recherche sur cette thématique. Donc, comme Marc vient de le dire, je vais vous parler d'un point de vue non seulement biologiste, mais comme vous allez le voir, d'un point de vue du généticien. Et c'est un travail qui complémente, je l'espère de façon assez efficace, toute la contribution du groupe de Marc, qui a donc donné toute son expertise en biochimie et en génétique. Donc cette collaboration dure effectivement depuis 10 ans. Je ne peux pas, parce qu'elle est au premier rang, je ne peux pas ne pas remercier Dominique Expert, qui a été la catalyseuse initiale de cette rencontre. Donc ce dont je vais vous parler, bien sûr, ce sont de sang de fer soufre, une vision génétique et cellulaire. Je vais tout de suite remercier les gens qui ont contribué à ce travail, c'est-à-dire les personnels CNRS qui sont dans mon groupe à Marseille. Donc les personnels CNRS qui sont actuellement dans le laboratoire sont leur nom en rouge. Yann Verger est un ingénieur, Benjamin, Laurent, Pierre, Béatrice, je ne vais pas les lire, vous les avez tous ici. Je note Daniel qui n'est plus à Marseille, il est revenu à Paris, mais il est au fond de l'amphi, donc je le remercie aussi. Et puis des post-docs et des étudiants comme il se doit. Le groupe de Marc avec notamment Sandrine et Catherine, et ces études ont été financées par des tutelles, CNRS, Aix-Marseille, Joseph Fourier, Grenoble, et éventuellement et également l'ANR et l'IUF. Alors voilà les messages à partir desquels vous pouvez ne plus écouter, parce que ce sont les messages de mon séminaire. Donc ici, le premier, Marc en a déjà parlé, et Chacha Colli synthétise deux systèmes de biosynthèse des clusters fer-soufre que nous appelons ISC et SUF. Je vous montrerai comment il fonctionne, mais Marc a déjà bien fait cette introduction, donc ça sera très rapide. La présence de deux systèmes de biosynthèse dans un même système cellulaire conduit inévitablement à la question de la redondance fonctionnelle. Les deux systèmes font a priori la même chose, donc comment peut-on étudier l'influence de l'une ou de l'autre, de l'un ou de l'autre des deux systèmes ? Eh bien pour ça, il faut faire de la génétique, et c'est ce que je vous décrirai ici. Nous avons mis au point une approche génétique pour essayer de trier les contributions de chacun des deux systèmes au phénomène étudié. Et ensuite, je vous montrerai que les deux systèmes peuvent effectivement participer à la maturation globalement de toutes les protéines fer-soufre de la cellule, mais elles le font dans des conditions différentes, des conditions de culture et de croissance différentes. Donc ce sera un message qui sera sous-jacent à la plupart des résultats que je vous montrerai, sauf qu'à la fin, je vous montrerai, évidemment, c'est comme ça que la science progresse, que ce n'est pas vrai, qu'il existe un cas, au moins, que nous venons de décrire, d'identifier, dans lequel les deux systèmes présentent des spécificités de substrat très différentes et que les conséquences de ces spécificités de substrat sont tout à fait remarquables puisque, dans le cas des bactéries, elles vont se solder par une capacité à résister à des traitements antibiotiques ou non. Donc c'est un sujet qui est évidemment fort intéressant et important. Donc première partie, Escherichia coli, comme vous le savez, un modèle simple pour l'étude de processus complexes, on vient d'en parler, et conservés, Marc vient de le dire aussi. Donc c'est une diapo que nous avons déjà vue, donc c'est exactement la même. Donc simplement pour vous rappeler qu'il y a des protéines fer-soufre dans à peu près tous les processus cellulaires qui sont importants pour le fonctionnement d'une cellule. Je ne vais pas m'apesantir sur cette diapo, vous l'avez déjà vue. Donc, un petit peu de détails sur les deux systèmes, Marc l'a déjà fait, le système ISC, le système SUF. Vous avez ici une représentation qui a un code couleur, comme l'on dit, c'est-à-dire que les composés tels que cette cystéine désulfurase dans le système ISC ou cystéine sulfurase dans le système ont la même couleur, ça veut dire que structurellement, elles sont assez proches l'une de l'autre, elles ont à peu près 30-40% de séquences d'identité de séquence. Alors cette identité de séquence, ce niveau de ressemblance entre les deux machineries est pertinent et vrai pour les cystéines désulfurases. Il est vrai pour les carrières, dont nous avons parlé, mais vous voyez qu'ensuite, le cœur de la machinerie, le haut fourneau, si vous voulez, là où le fer et le soufre se rencontrent et s'assemblent, là, les deux systèmes ont des propriétés, des recrutes, recruter des composants extrêmement différents. Il s'agit ici de quelque chose qui est une ABC, une ATPase d'ABC transporteur pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, c'était un système qui normalement est dédié à faire passer des différents molécules de part et d'autre d'une membrane. Là, a été recruté et c'est spécifié pour la production d'un cluster fer-soufre. Quant à ici, cet ensemble-là a recruté des chaperones et des co-chaperones, ce qui s'appelle des protéines de stress. Là aussi, il y a eu un recrutement pour de ce type de protéines pour qu'elles se consacrent à la production de fer-soufre dans le cadre de cette machinerie ISC. Le message donc de cette diapositive, de cette comparaison d'un point de vue évolutif, est que nous avons affaire à un cas assez rare où deux machines produisent le même produit, qui est le fer-soufre, mais ne sont pas des duplications relativement simples l'une de l'autre, mais sont le résultat plutôt de ce qu'on pourrait appeler une évolution convergente. Donc c'est assez rare pour être noté. Ces systèmes sont conservés, Marc l'a dit, Echa Coli a le système ISC et le système SUF, et nous allons donc pouvoir étudier et comparer leur contribution et leur fonctionnement à l'intérieur d'une même cellule. C'est intéressant notamment pour les gens qui travaillent sur les plantes, car chez les plantes, le système SUF est dans le chloroplaste et le système ISC est dans la mitochondrie. Donc on a, avec Coli, encore une fois, une bonne représentativité du vivant dans son ensemble. Voilà, donc deux systèmes qui font le même produit. La question est simple, comment faites-vous pour attribuer à tel ou tel système la responsabilité de telle ou telle action, puisque effectivement, lorsque vous allez inactiver un système, le système SUF par exemple, vous n'allez pas avoir de phénotype, c'est-à-dire que les bactéries seront viables. La raison probable, c'est parce qu'il y a le système ISC qui fait le boulot et qui le supplante. Si vous inactivez le système ISC, la bactérie est viable, probablement parce que le système SUF fait le travail. Et effectivement, lorsque vous inactivez les deux systèmes, donc pour les non-généticiens, l'inactivation est précisée ici par le moins, SUF moins, c'est un mutant dépourvu du système SUF, ISC moins, un mutant dépourvu du système ISC, ce double mutant n'est pas viable. Donc là, vous avez d'abord un certain moment de plaisir, puisque cela veut bien dire que vous travaillez sur un système essentiel à la vie. Une bactérie dépourvue des systèmes de biosynthèse, des systèmes fer-soufre n'est pas viable, donc le processus est bien essentiel. Toutefois, vous n'avez plus de matériel biologique, plus de bactéries pour travailler, puisque ça n'est pas viable. Donc vous devez soit abandonner, soit essayer d'inventer un moyen de contourner cet obstacle. Et c'est ce que nous avons fait, je dois dire, avec de la réussite, du bonheur, mais aussi un peu de chance, il en faut toujours, parce que la question était simple. Si l'absence des deux systèmes de biosynthèse de fer-soufre conduit à une situation de mortalité, c'est peut-être parce qu'il existe une protéine, au moins une, qui est une protéine à fer-soufre et dont le fonctionnement est essentiel pour la bactérie. Alors, existe-t-il une telle protéine ? En fait, oui, il en existe deux, au moins deux, dans des conditions qui étaient les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire en présence d'oxygène et à 37 degrés. Ces deux protéines, ISG et ISPH, dont Marc parlera donc la semaine prochaine, sont des protéines à fer-soufre qui catalysent la production de ce qu'on appelle les isopentyldiphosphates ou isoprénoïdes, qui sont des précurseurs absolument essentiels pour le système cellulaire. Donc une hypothèse était que, en l'absence des systèmes ISC et SUF, l'une ou l'autre ou les deux de ces protéines n'obtenaient pas leur cluster fer-soufre, donc ne fonctionnaient pas, ne fonctionnant pas, le niveau d'IPP n'était pas suffisant, voire était absent, et pour donner à la bactérie la possibilité de vivre. Donc si cette hypothèse était vraie, il y avait une façon de contourner cet obstacle, et c'est là où nous avons eu de la chance, en ce sens que vous et moi, c'est-à-dire les eucaryotes que nous sommes, ne produisons pas, nous avons autant besoin des IPP que les bactéries, mais nous ne le produisons pas par cette voie qui se branche à partir du pyruvate ou qui se crée à partir du pyruvate et du glycéral des hydrophosphates, mais utilise comme substrat initial le mévalonate. En fait, c'est la voie la plus connue, la voie mévalonate dépendante. Et cette voie fait intervenir trois enzymes. Ces trois enzymes transforment le mévalonate en isoprénoïde et aucune des enzymes impliquées n'est une enzyme à fer soufre. Donc, il suffisait d'introduire ces trois gènes eucaryotes dans une bactérie dépourvue du système ISC et SUF et tester, poser la question de savoir si cela supprimait, c'est le terme génétique, la létalité de la double mutation. Donc voilà l'expérience. Nous avons construit une souche dans laquelle nous avons inactivé les deux systèmes ISC et SUF, dans laquelle nous avons introduit les trois gènes qui étaient en fait des gènes de souris. Ces trois gènes de souris donc, qui sont responsables de la dégradation du mévalonate, la transformation du mévalonate en IPP, ont été mis sous le contrôle d'un promoteur bactérien. Et lorsque vous ajoutez donc, voilà, une bactérie qui pousse normalement, c'est une bactérie contrôle sauvage. Voici ici une absence de croissance qui est le double mutant, celui qui a perdu les deux systèmes ISC et SUF et qui ne pousse pas. Maintenant, si dans ce mutant-là, vous introduisez la voie mévalonate qui est ici. Vous voyez les bactéries là, elles poussent de nouveau. Donc les gènes de la voie de transformation du mévalonate en isoprénoïde de la souris sont capables de supprimer la létalité due à la double mutation. Ce qui veut dire que la raison pour laquelle effectivement le double mutant ISC-SUF était létal était parce qu'il ne faisait pas assez d'isoprénoïdes. Donc, ce faisant, nous avons pu, à ce moment-là, poser la question du rôle, de la contribution de chacun des deux systèmes à ce qu'on appelle le terme consacré à la maturation des protéines de la voie de biosynthèse des isoprénoïdes. Donc, pour ce faire, c'est très très simple. Vous avez ici les deux machineries, ISC et SUF. Nous allons construire un mutant ISC-S de la cystéine des sulfurases. Ce mutant pousse, le signe plus dit que la croissance est normale. Nous construisons un mutant SUF-S privé de celle-ci. La souche pousse, la croissance est normale. Nous inactivons les deux, c'est ce que représente ce schéma. Le résultat est que la bactérie ne pousse plus. Alors ne pousse-t-elle plus parce qu'elle ne fait pas d'isoprénoïde ? Eh bien oui, puisque lorsqu'on ajoute la voie mévalonate, c'est ce qui est représenté ici, la bactérie pousse de nouveau. Tel est le raisonnement, l'interprétation, et que les protéines ISP pour obtenir leur fer soufre dépendent de fonctionnement soit de la cystéine des sulfurases ISC-S, soit de la cystéine des sulfurases SUF-S. Les deux peuvent donc contribuer à la maturation des protéines ISP. Alors, même raisonnement, je vais aller beaucoup plus vite, cette fois-ci en posant la question des deux scaffolds, et la réponse est la même. Oui, les deux scaffolds peuvent être utilisés pour maturer ISG. Même question, même réponse pour les deux ATC. Oui, donc nous arrivons à un schéma de maturation de la protéine ISP, des protéines ISPGH, qui est représentée très simplement ici, et qui traduit le trajet que font les clusters fer soufre du site de leur construction dans la scaffold SUF ou dans la scaffold ISC. Les clusters sont transférés au carrière SUF-A qui le transfère directement à la protéine cible ou en parallèle, la scaffold ISQ transfère le cluster fer soufre à ISCA qui le transfère à la protéine cliente ISGH. Alors, le message et donc le premier, c'est que deux machineries et a priori au moins une des protéines essentielles du système cellulaire peut effectivement s'alimenter aux deux machineries pour se fournir en cluster fer soufre qui est pour elle un sine qua non, une situation sine qua non pour son activité. Alors, nous avons là cette diapositive va représenter 3-4 ans de travail de génétique notamment qui a conduit à une vision cohérente avec ce que je viens de vous dire, mais on va dire un petit peu plus complexe, dans le sens où, oui, les deux machineries permettent d'alimenter la protéine cliente ISPGH, mais elles le font dans des conditions de croissance de la bactérie différentes. Et le message de ce résultat est qu'un cluster fer soufre à plusieurs façons, au sens, j'allais dire, acheminement, voie d'acheminement, il a plusieurs façons de rejoindre une protéine cible. Donc on va aller dans le détail ici, en conditions privées d'oxygène. Alors privées d'oxygène, c'est la bactérie pousse en absence d'oxygène. Un cluster fer soufre est construit dans la protéine scaffold ISQ, il est transféré à ISQ-A qui peut tout de suite directement le transférer à la protéine cible. Ça, c'est en absence d'oxygène. Au contraire, en présence de stress, alors le stress oxydant ou un stress qui est celui du manque, le manque de fer, imaginez comment peut-on construire un cluster fer-soufre si nous sommes limités en fer. La situation est évidemment une situation stressante pour la bactérie. Donc dans ces situations-là, le cluster fer-soufre est construit dans la machinerie SUF qui le transfère à SUF-A, le carrier, qui le transfère directement à la protéine cible. Donc nous avons ici deux situations extrêmes, absence d'oxygène et stress oxydant. Alors pourquoi? Et vous voyez que nous avons deux chemins de cheminement. On parle là, on peut faire une comparaison avec un trafic routier, littéralement, hein, conditions climatiques favorables ou défavorables, ou conditions de trafic favorables ou défavorables. Alors, petit commentaire sur l'absence d'oxygène. Marc y a fait allusion tout à l'heure en disant que ces clusters fer-soufre étaient très sensibles à l'oxygène. Et de fait, lorsque les bactéries poussent en absence d'oxygène, les clusters qu'elles construisent sont extrêmement stables. Et donc, il est vraisemblable que les contraintes qui sont posées sur le transfert, et donc à chaque transfert, il y a un risque pour le cluster d'être déstabilisé, même s'il n'existe jamais sous forme libre, la voie assez simple, de fait de deux composants, est suffisante pour donner ce cluster à ISGH et permettre la vie de la bactérie. Et c'est si vrai que cette fois-ci, en présence d'oxygène, mais avec du fer, il n'y a pas de situation très stressante, simplement des conditions normales de croissance, ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a un autre composant qui arrive et qui est nécessaire et essentiel pour complémenter l'activité de transfert et de construction des deux voies, des deux machines, SUF et ISQ, puisque en effet, en présence d'oxygène, le chemin suivi par les clusters pour atteindre leur cible est le suivant, construction dans la scaffold ISQ ou SUF, transfert au transporteur respectif, SUFA ou ISQA, et ensuite transfert à ce nouvel élément, ERPA, qui lui va prendre en charge le cluster et l'amener jusqu'à la protéine ISP. Et ceci probablement pour répondre à la contrainte nouvelle qu'impose la présence d'oxygène. Cette conclusion selon laquelle donc, les deux systèmes ISQ et SUF, peu ou prou, sont capables de s'occuper de la totalité des protéines d'Escherichia coli, des 200 protéines, a résister à plusieurs tests que nous lui avons fait subir, puisque nous avons étudié par les mêmes approches la maturation d'un régulateur ici qui est ISQ-R, qui est le régulateur de l'homéostasie des fer-soufre, j'y reviendrai, la maturation de notre régulateur NSRR, qui est le responsable du sensing, de la perception du stress NO, et puis d'autres enzymes comme la biotine synthase, etc. Globalement, ce que nous voyons à chaque fois, c'est que ces protéines peuvent acquérir leur cluster fer-soufre en utilisant, en convoquant, si je puis dire, les deux machineries ISQ et SUF. Alors, comme vous le voyez, sans rentrer dans le détail, simplement sur le graphisme des circuits représentés, vous voyez qu'ils ne sont pas équivalents. C'est vrai qu'il y a quelques différences. La plus notable ici serait que cette protéine ne peut jamais acquérir son cluster fer-soufre directement à partir de SUF-A. Un détail ici, cette protéine ici peut aussi se passer des services de SUF-A dans ce cas-là. Bon. Mais globalement, l'image que je souhaiterais que vous ayez de cette partie, c'est que vous avez en haut ISQ et SUF et en bas l'une des 200 protéines de coli. Globalement, les règles sont toujours respectées comme ça, avec évidemment des différences en fonction des conditions de croissance. Je n'y reviens pas. Alors, cette règle, évidemment, comme je vous l'ai annoncé, cette règle a tout de suite, enfin pas tout de suite, parce que ça fait quelques années que l'on dit ça dans les conférences, et bien depuis quelques mois, nous travaillons à construire, comme on dit, un cas de figure dans lequel cette règle n'est pas respectée. Et comme je l'ai déjà annoncé, C'est cette exception ou cette particularité va conduire à des conséquences tout à fait importantes, surtout lorsqu'on est avec une bactérie. Donc, lorsque l'on est une bactérie, pardon. Alors, vous l'avez les mots là, ici, rôle de Sandifer-Soufre dans la résistance aux antibiotiques. Et j'ai mis autant de signes graphiques que je pouvais pour essayer de traduire et de vous faire passer la surprise avec laquelle on a accueilli ce qui a été en fait une petite annonce relativement importante dans le domaine il y a quelques années, lorsque un groupe de Boston, groupe de Collins, a publié donc en 2007 ce schéma. Alors qu'est-ce que ce schéma ? Ce schéma résume la réponse à la question qu'il s'est posée et qui était une question et qui est une question extrêmement importante, à savoir comment les antibiotiques tuent les bactéries. Question à laquelle on croyait tous que nous avions des réponses. Eh bien, en fait, effectivement, Collins a été le premier à dire, en regardant la littérature, en fait, on ne sait pas vraiment comment ça tue. On sait sur quoi ça agit, et on parle là de cibles primaires. Les aminoglycosides agissent sur le ribosome, les quinolones agissent sur l'ADN, les bêta-lactames agissent sur l'enveloppe de la cellule, le peptidoglycan. Donc ça, on sait quelles sont les cibles primaires de toutes ces molécules, de tous ces antibiotiques. Mais en fait, pourquoi, une fois qu'il y a eu ces interactions, ces interférences, ces inhibitions, pourquoi, à la fin de l'histoire, la bactérie meurt-elle? Et la réponse que Collins donne, c'est que la cible primaire importe peu, d'une certaine façon. Ce qui compte, ce sont les conséquences de ces premières interactions. Et ces conséquences sont un dérèglement de la chaîne respiratoire, un dérèglement qui conduit à la production de superoxyde. Ce superoxyde déstabilise les clusters fer-soufre. Du fer est alors relargué. Vous voyez, ici, le cluster fer-soufre, cette protéine a son cluster fer-soufre. Ici, elle l'a perdu, du fer ferreux est relargué et va alimenter ce que l'on appelle, c'est un anglicisme, va alimenter la réaction de Fenton qui va produire le deadly, le ion hydroxyle, qui lui est effectivement un poison absolu qui va conduire à un tas de modifications au niveau de l'ADN, un tas d'accidents littéralement, et qui va conduire à la mort cellulaire. Donc, message de ce schéma, quelle que soit la cible primaire des antibiotiques, la raison pour laquelle ils tuent, c'est parce qu'ils sont capables d'induire la production de formes libres, radicaux libres de l'oxygène, qui, eux, sont responsables de la mort cellulaire. Et comme vous le voyez bien, ici, graphiquement, évidemment, les clusters fer-soufre ont une position de choix dans ce scénario, puisqu'ils sont ceux qui vont recevoir la forme radicalaire de l'oxygène première, la superoxyde, et ils vont donc médier et amplifier le processus de création de stress oxydant. Donc évidemment, en tant que spécialiste de stress oxydant, on ne pouvait pas ne pas être alerté par ce modèle. Il faut dire que ce modèle a suscité, comme j'ai fait allusion, a suscité beaucoup de remous dans la communauté des fer-soufre, dans la communauté des antibiotiques, dans la communauté du stress oxydant. Enfin, voilà, donc c'était une contribution majeure parce qu'elle faisait rupture et qu'elle proposait quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, nous avons travaillé sur ce modèle depuis quelques années. Je ne parlerai pas du tout de l'aspect stress oxydant que nous avons également, analysé. Je me consacrerai uniquement, évidemment, étant donné la thématique du cours, à la partie stress oxydant. Donc, première question, je le rappelle, les antibiotiques bactéricides agiraient de la même façon. Alors ici, vous avez une image d'une bactérie, ce sont des observations microscopiques, vous avez Escherichia coli ici, qui a été traitée avec de l'ampicilline, qui est un bêta-lactame, ou de la gentamicine, qui est un aminoglycoside, ou n'a pas été traité, c'est l'expérience contrôle, et des clichés ont été pris après 1h30, 3h et 4h30 d'exposition. Donc, voyez, l'ampicilline a le phénomène, a l'effet le plus spectaculaire. On a des formations, si on part d'une bactérie comme ça, quelques heures après, on a ça, c'est une filamentation absolue. Tout ceci était très connu, et ça finit par une explosion des cellules, tout à fait spectaculaire sous le microscope. La gentamicine, l'autre aminoglycoside, vous voyez, les bactéries ne changent quasiment pas de morphologie, et simplement, si on compare après 5 heures ou 3 heures et demie, ou 4 heures et demie ou 3 heures, à la situation contrôle, on voit tout simplement l'effet de l'antibiotique, c'est-à-dire que les bactéries n'ont pas poussé. Nous sommes restés au même nombre à partir du moment où on a appliqué l'antibiotique. Donc, clairement, au moins morphologiquement, ces deux antibiotiques, clairement, n'agissent pas de la... Enfin, n'ont pas les mêmes conséquences. Alors, bon, on peut avoir des raisons communes à la mort, il n'en demeure pas moins que, si je puis me permettre, les Maccabées ne se ressemblent pas du tout. Ce qui, du coup, était quand même un petit peu... en tous les cas, nous questionner. Alors, nous avons vérifié la prédiction, d'ailleurs, Collins lui-même avait vérifié cette prédiction en disant, bon, mais si je ne fais pas, si la bactérie ne fait pas de cluster fer-soufre, je vais rompre cette voile, donc on n'aura plus le phénomène d'amplification et de médiation, donc on devrait avoir des bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors, voilà une souche privée de la scaphole et du carrière du système ISC qui a été traitée de la même façon. Donc, on la voit ici, elle pousse normalement sans traitement. Lorsqu'on la soumet à de l'ampicilline, vous voyez que nous avons toujours nos énormes filaments comme dans le cas sauvage. Et alors, donc on pourrait conclure, on a plutôt tendance à conclure que la mutation ISC ne fait rien et donc elle ne confère pas une résistance à l'ampicilline. Quant à la gentamicine, à l'aminoglycoside, ici, vous voyez que vous avez une multiplication des bactéries. Donc, interprétation, une mutation dans le système ISC, effectivement, rend les bactéries résistantes au traitement antibiotique par un aminoglycoside. Donc, dans cette partie-là, si je puis dire, nous confirmons les résultats et les prédictions du modèle de Collins. En revanche, nous ne confirmons pas ce modèle dans l'aspect unificateur de l'action des antibiotiques, car on voit bien qu'une ampicilline et un bêta-lactam et un aminoglycoside n'ont pas du tout la même action lorsque on traite des bactéries dépourvues du système ISC, et donc on peut déduire que les fer-soufre ne seront pas et le stress oxydant ne seront pas importants pour médier la toxicité de l'ampicilline. Alors je vais prendre 2 minutes sur cette représentation graphique qui n'est que la représentation graphique de ce que nous venons de voir, mais je vais utiliser ça tout le reste de la fin de mon séminaire. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement du pourcentage de survie en log ici après application d'un antibiotique. Et donc, ce sont des prélèvements à 0, 1 heure, 3 heures, 4 heures. Et chaque prélèvement est ensuite la quantité de bactéries vivantes dans chacun des prélèvements est calculé. Donc, vous avez ici en noir des souches qui n'ont pas subi de traitement antibiotique et en rouge, les bactéries qui ont été exposées, les mêmes fonds génétiques, les mêmes bactéries qui ont été exposées à ici de la gentamicine, ici de l'ampicilline. Donc, ce que nous voyons, c'est, prenons le carré noir, il est ici, ça c'est une souche sauvage qui n'a pas été traitée par quoi que ce soit, elle pousse normalement ici. Maintenant, si nous prenons cette souche sauvage et que nous la traitons à la gentamicine, c'est ce que nous avons vu dans les clichés de microscopie, vous voyez, la viabilité de cette bactérie chute considérablement, 4 ou 5 logs, donc ça c'est le résultat contrôle. Maintenant, si on fait l'expérience en prenant un mutant dépourvu du système ISC, sans antibiotiques, ce sont ces ronds ici, avec antibiotiques, ce sont les ronds qui sont juste dessus. Donc effectivement, on confirme que l'ablation, l'inactivation de la machinerie ISC conduit à la résistance des bactéries à un traitement par aminoglycoside. Je ne commenterai pas plus ce résultat qui est avec l'ampicilline. Celui-ci démontre de la même façon que les deux antibiotiques n'agissent pas de la même façon, puisque dans ce cas-là, l'ampicilline reste toxique pour une bactérie dépourvue du système ISC. Nous ne parlerons plus d'ampicilline désormais. Nous allons nous consacrer donc à nous concentrer sur la gentamicine, qui est un aminoglycoside. Alors, ce que la théorie à l'issue des études du professeur Collins disait, c'est que pour être résistant à des antibiotiques, il suffisait à une bactérie de ne pas faire de cluster fer-soufre, car c'était ces espèces de situations, les Anglais appellent ça les « enemy within », c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur du système vivant ce qui va conduire à sa propre mort. Seulement dans ce figure-là, dans ce cas de figure-là, il y a un vrai problème d'interprétation qui est ici. L'observation est que nous avons confirmé qu'un mutant UA est résistant. Alors, résistant entre guillemets, on n'est jamais résistant au sensible, on est plus résistant qu'un sauvage ou moins résistant, c'est toujours comparatif. Donc, il est plus résistant qu'une souche contrôle sauvage à la gentamicine. L'interprétation qu'en ont fait nos collègues américains, c'est que les centres fer-soufre sont des médiateurs amplificateurs de la toxicité via leur implication dans le stress oxydant. Et ils ont donc prédit qu'une bactérie qui ne ferait plus de cluster fer-soufre serait résistante à la gentamicine. Problème, c'est qu'une bactérie, et je vous l'ai montré dans la première partie, qui ne fait plus de fer-soufre n'est pas viable. Donc en somme, pour résister à un antibiotique, il suffit d'être mort, ce qui effectivement est une bonne stratégie, mais je ne suis pas certain qu'elle soit à la source d'un plaisir immense. Donc, il y a un problème majeur ici qui est le système SUF, dont il n'a jamais été question dans toute cette histoire. Donc, si je puis dire, pour résumer, mais que fait donc SUF pendant ce temps? Et c'est ce que nous avons étudié donc, depuis quelques mois. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les deux systèmes ISC et SUF communiquent via une régulation génétique. Alors, quelle est cette régulation génétique? C'est d'ailleurs un très, très beau système. Voilà le système ISC ici. Donc, ça, ce sont les systèmes indisulfurase, scaffold, etc., dont nous avions parlé. Un gène dont nous avons à peine évoqué le nom est ISCR. C'est un gène qui code pour une protéine ISCR qui est elle-même une protéine à fer-soufre et qui est un régulateur. Donc, que se passe-t-il? Ce gène produit cette protéine et cette protéine, ici, va bénéficier de l'activité de la machinerie ISC pour acquérir son centre fer-soufre. Et une fois qu'elle aura son centre fer-soufre, cette protéine-là va réprimer l'expression de la machinerie. Lorsqu'elle réprime l'expression de la machinerie, elle n'est plus maturée, donc l'équilibre se déplace vers ici, et à ce moment-là, le système se réouvre pour faire des clusters centre fer-soufre. Des clusters sont faits, les clusters sont insérés dans cette protéine qui ferme, donc c'est un réostat. Donc ce système-là tourne et sent la capacité de la bactérie à faire des clusters fer-soufre. J'insiste sur le « à faire », ce qui veut dire que ce sont dans des conditions où elle peut faire. Elle a du fer, il n'y a pas de stress oxydant, tout va bien. Simplement, elle va sentir comme ça sa capacité pour ne pas en faire de façon inutile. Nous sommes dans un problème de gestion ici et probablement cette protéine est l'une des protéines les moins bons substrats donc pour la machinerie ISC. Donc quand cette protéine a son cluster, ça veut dire probablement que les 100-150 autres protéines l'ont aussi. Et donc on peut fermer la machine et s'arrêter de produire des clusters. Toutefois, si les conditions évoluent et deviennent notamment extrêmement négatives et adverses pour les stabilités, par exemple la stabilité des clusters fer-soufre, c'est-à-dire en carence de fer ou en présence de stress oxydant, on va déplacer, puisque cette protéine va perdre son cluster, et on va déplacer l'équilibre vers la forme APO, qui non seulement va donc permettre à cette machinerie d'être synthétisée, mais également va agir comme activateur, la flèche est dans ce sens, activateur de la machinerie SUF. Et donc la bactérie va donc pouvoir passer, si je puis dire, mettre le contrôle de la biogénèse des fer-soufre du système ISC, va la passer sous le contrôle du système SUF, avec une période transitoire où elle aura les deux systèmes qui fonctionneront. Donc c'est-à-dire, probablement, lorsque la demande en fer-soufre est très très forte, les deux machineries sont nécessaires et vont contribuer à ceci. Alors, cette communication entre les deux, par exemple, montre que lorsque l'on a testé la résistance des bactéries ISCU-, celles qui n'avaient pas ça, aux antibiotiques, en fait, nous n'avions pas une bactérie dépourvue du système ISK, nous avions une bactérie dépourvue du système ISK, surexprimant le système SUF, puisque le système ISKER lui permettait d'activer. D'accord ? Donc nous n'étions pas dans la situation aussi simple que celle qui était décrite. Et pour ce faire, pour donc simplifier et casser toutes ces relations souterraines entre les deux systèmes, nous avons construit une souche que nous avons appelée ISEF. Cette souche ISEF, alors ce n'est pas un souci de communication, c'est I veut dire ectopique, c'est parce qu'on a placé le système SUF dans le chromosome à un locus différent de celui dans lequel il est habituellement. Et cette souche est donc schématisée ici. C'est une souche qui n'a plus le système SUF, qui n'a plus le système ISK et qui a le système SUF à un autre endroit sous un système contrôlable. Quelle est la question ici ? La question revient au modèle donc, de notre collègue américain. Cette cellule est viable. Sans arabinose, vous voyez, quand ce système ne fonctionne pas, il n'y a pas de bactéries qui poussent. Si on ajoute de l'arabinose, vous voyez, elle pousse. Donc ça, c'est la démonstration que la présence de clusters fer soufre est essentielle. Donc cette cellule fait des clusters fer soufre. Est-ce qu'elle va être sensible ou résistante aux antibiotiques ? Selon le premier modèle, il suffirait d'avoir des fer soufre pour redevenir sensible, pour pouvoir avoir ce stress oxydant. Là, nous allons donc tester. C'est cette souche ici, ISEF, rond noir sans antibiotiques, rond rouge avec antibiotiques. Cette souche est parfaitement résistante. Et pourtant, elle fait des clusters fer soufre, puisqu'elle vit. Voilà le modèle, le graphisme de son contenu génétique ici. Donc ça veut dire que la question n'est pas de faire des clusters fer soufre ou de ne pas faire de clusters fer soufre. La question est de savoir par qui on les fait et comment on les fait. Est-ce qu'on les fait par ISK ou on les fait par SUF ? Et visiblement, ça fait une différence de vie ou de mort pour une bactérie traitée à un antibiotique. Et c'est si vrai que nous avons confirmé testé le deuxième élément de ce raisonnement. Si dans cette souche-là, nous réintroduisons la machinerie ISK ici, la bactérie traitée aux antibiotiques rechute en viabilité de façon drastique. Donc en fait, l'hypothèse est celle de la spécificité du substrat. Qu'est-ce que c'est cette hypothèse ? Cette hypothèse est qu'il existe au moins une protéine X qui n'obtient son centre fer soufre que par ISK, ce qui rend la souche qui l'abrite sensible à l'antibiotique. Il y a une hypothèse inverse qui est qu'il existe au moins une protéine X qui n'obtient son centre fer soufre que SUF et qui rend sensible, résistant aux antibiotiques. Elle est plus compliquée et je resterai donc à celle-ci. Donc voilà, schématiser cette hypothèse. Le système ISK transfère son cluster fer soufre à cette protéine X et cette maturation conduit à la sensibilité à l'antibiotique. Le système SUF, lorsqu'il a la protéine X comme substrat, ne la reconnaît pas, ne la mature pas et la bactérie est donc résistante. Donc voilà, donc ça c'est le modèle où nous sommes arrivés et maintenant vous allez voir que les expériences vont découler de tout ça. Donc protéine X, quelle peut être donc cette protéine X qui serait responsable de tout ça ? Ben, posons-nous la question de comment agissent les aminoglycosides, je veux dire au sens général, comment ça se passe quand on ajoute des aminoglycosides ? Eh bien ça se passe comme ça. L'aminoglycoside traverse la membrane cytoplasmique par un canal qui est, d'ailleurs de façon assez étrange, on s'est aperçu que depuis les années 90, on a peu fait de progrès sur cette affaire-là, donc probablement un canal voltage-gated-voltage, mais dont on n'a pas véritablement de connaissances moléculaires en tous les cas. L'antibiotique va aboutir au ribosome, se fixer au ribosome, et cette inhibition du ribosome, alors, très exactement à l'ARN 16S de la sous-unité 30S, va conduire à la production de protéines tronquées, mal repliées, qui vont aller dans la membrane et vont déstabiliser la membrane et de ce fait créer des ouvertures encore plus importantes pour l'aminoglycoside. C'est le modèle de la feed-forward loop qui a été proposé il y a une vingtaine d'années, les années 80-90, Et ce qui, c'est ce qui nous intéresse maintenant, ce qui promeut le transfert de l'antibiotique, vous voyez, c'est ça, c'est la PMF, c'est la force protonmotrice, résultant du gradient de protons qui s'installe de part et d'autre de la membrane de n'importe quel système vivant respirant. Donc, voilà comment, de quoi on a besoin quand on est une aminoglycoside pour atteindre sa cible. Maintenant, qui fait ce gradient? Eh bien, Marc en a déjà parlé. En fait, ce gradient, chez coli, les plus grands, il y a plusieurs façons de faire de la PMF, mais les contributeurs majeurs de la PMF chez coli, c'est le complexe 1, qui est le résultat qui est un complexe de 12 ou 13 protéines appelées NUO, ou le complexe 2, qui est la succinate déshydrogénase, qui peut s'apparier, faire un partenariat avec la quinoloxydase. Que se passe-t-il ici? Il y a un transfert d'électrons à partir du NADH vers le NAD, vers les quinoles et quinoloxydases grâce à ce complexe 1, ou à partir de succinate qui se transforme en fumarate pour ensuite donner, abonder un électron cette chaîne de transfert. Ces transferts d'électrons ici se résultent dans un gradient de protons, ici de part et d'autre de la membrane. Ce gradient de protons est responsable de la production de la PMF. Et comme vous l'avez déjà vu, ces deux complexes ont pour lui 9 centres fer soufre et pour lui 3 centres fer soufre. Donc, la prédiction est la suivante. L'hypothèse d'aspirité du substrat, la protéine X, eh bien, en fait, il n'y aurait pas une protéine X, mais il y en aurait deux. Une serait NUO et l'autre serait SDH. Le système ISK maturerait ces deux systèmes, les voilà maturés avec leur fer soufre. Le fonctionnement de ces deux systèmes conduirait à la production de force protomotrice. Cette force protomotrice permettrait l'import de la gentamicine et la bactérie serait donc maintenant sensible à la gentamicine. Si à la place de ISK vous avez SUF, ces systèmes ne sont pas maturés et donc on n'a pas d'import et pas de sensibilité. Alors, on va tester toutes ces prédictions à présent par des systèmes très, très simples. Donc, la prédiction est celle de l'import. Donc, on prend de la gentamicine marquée radioactivement. On regarde son import et c'est ici. Voilà une souche sauvage. Donc, on fait plusieurs prélèvements au cours du temps. C'est une cinétique tout à fait classique. Et on mesure la radioactivité accumulée à l'intérieur de la cellule. Voilà une souche sauvage. On a une accumulation de radioactivité intracellulaire, c'est-à-dire que nous avons une accumulation de l'antibiotique à l'intracellulaire. Maintenant, on fait un double mutant qui n'a plus le complexe 1, qui n'a plus le complexe 2, qui n'a plus normalement de PMF. La prédiction, c'est qu'il ne doit plus donc accumuler de gentamicine. Et vous avez ici la courbe verte qui traduit effectivement cette souche n'accumule plus de gentamicine. Les activités enzymatiques sont cohérentes avec ceci. Et nous regardons ce qu'il advient d'un mutant dépourvu du système ISK. Eh bien, vous voyez, le mutant dépourvu du système ISK n'accumule plus non plus de gentamicine, expliquant par là même sa résistance. Et donc ici, nous retrouvons les résultats que j'ai déjà montrés pour la souche ISQA. Ce sont les résultats de viabilité. Donc le double mutant ici, n'a plus le complexe 1 ni le complexe 2, est traité sans antibiotiques. C'est l'une des courbes noires ici. Avec antibiotique, le triangle ici inversé, elle est là. Cette bactérie est effectivement devenue totalement résistante aux antibiotiques. Qu'en est-il de la souche I-SUF, celle qui produit des fers soufre uniquement avec le système SUF, mais qui est résistante aux antibiotiques? La prédiction serait que ce système donc, ne permet pas l'accumulation de gentamicine. Nous avons fait l'expérience d'import, nous avons fait les expériences d'activité, donc très rapidement. Les activités du complexe 1 et du complexe 2 sont diminuées d'un facteur 3-4 et cette baisse d'activité est suffisante pour, c'est la courbe verte ici, pour annihiler toute capacité d'import de la gentamicine également dans cette souche. Donc la raison pour laquelle cette souche est résistante est parce que cette souche n'importe plus la gentamicine non plus. Donc nous arrivons à ce modèle qui est qu'il existe effectivement un cas de figure qui est celui représenté par les complexes 1 et complexe 2 ou protéines NUO-SDH qui n'acquièrent leur centre fer soufre que par la machinerie ISK. Et ceci a pour conséquence de créer de la PMF qui, dans le cas précis d'une exposition à un antibiotique, a comme conséquence l'entrée de l'antibiotique et la létalité de la et la mort de la bactérie. Ces systèmes-là, lorsqu'ils sont en face de le système SUF, ne sont pas capables de récupérer leur cluster fer-soufre. Et donc, il n'y a pas de PMF et il n'y a pas d'entrée d'antibiotiques. Et nous avons donc une spécificité de substrat. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est quand est-ce que ça a lieu, cette affaire-là? Quand est-ce qu'on passe du système ISC au système SUF? Eh bien, je vous ai déjà parlé du rôle de ISCR. Voici le rôle de notre acteur, voici un autre acteur qui va avoir un rôle essentiel dans cette affaire-là, qui est le senseur du fer. Le senseur du fer, c'est une protéine qui s'appelle FUR, qui, lorsqu'elle est produite, se fixe au fer, ça veut dire qu'il y a du fer dans la cellule, et dans cet état-là, cette protéine va réprimer l'expression de SUF. Et elle va réprimer l'expression d'un petit ARN non codant qui, lui, va agir au niveau de la machinerie ISC. J'en dirai deux mots peut-être tout à l'heure. Donc, qu'en est-il en absence de fer? En absence de fer, FUR n'agit plus, hein, parce qu'il n'agit que lorsqu'il est fixé au fer. En absence de fer, il n'agit plus. Et donc, nous avons un système ISC qui va activer l'opéron SUF, et en absence de fer, RAIB, qui était réprimé par FUR, va maintenant être produit. Et que va faire RAIB? C'est un petit ARN non codant. Vous savez que le monde des ARN non codants et leur place dans la régulation de la biologie cellulaire est sans cesse, chaque jour, plus important. Et voilà ce que fait RAIB. RAIB est un petit ARN qui va venir se fixer sur l'ARN messager ici et déstabiliser toute cette partie de l'ARN messager ici. Quelle est la conséquence de cette affaire-là? La conséquence de cette affaire-là, c'est que le petit RAIB va inhiber la synthèse de toute la partie machine de la machine ISC, toute la partie structurale. Mais il va laisser, vous voyez, ISCR, le régulateur, intact. Et donc, ce régulateur va être fait, va pouvoir activer l'opéron SUF, et en revanche, la machine ISC va disparaître. Et donc, nous aurons bien une situation dans laquelle, maintenant, la bactérie ne travaille plus, ne vit plus que grâce à l'action de SUF. Et ça, tout simplement, parce que la bactérie est en limitation de fer. Les conséquences au niveau de notre problème d'antibiotiques vont être testés ici. Nous avons créé une situation de carence de fer, limitation de fer, en ajoutant du dipyridyl, DIP, qui est un chélateur de fer, et nous avons posé la question des conséquences, donc au niveau de la viabilité et en présence d'antibiotiques. Et la réponse, elle est là dans le titre. La présence d'un chélateur de fer exerce un effet de protection contre l'action des antibiotiques. Elle l'exerce comment? Elle l'exerce en inhibant l'activité du complexe 2 et du complexe 1, qui a pour conséquence l'inhibition de l'import et pour conséquence une viabilité retrouvée, quelles que soient les conditions, absence ou présence d'antibiotiques. Donc il suffit maintenant de rajouter, si je puis dire, un chélateur de fer pour modifier la capacité d'une bactérie à résister ou non à la présence d'un antibiotique. Donc voilà le modèle final de cette histoire-là. Je vous ai déjà commenté cette partie-là. Donc, comment passe-t-on de ISC à SUF? Eh bien, tout simplement, la bactérie passe progressivement de l'utilisation de ISC à SUF en suivant la concentration de fer. En condition de high concentration en fer, on utilise ISC. En condition de faible concentration en fer, elle utilisera SUF et se protégera de l'action délétère des antibiotiques. Voilà. Donc, je ne pas le temps de finir sur le rôle du petit ARN non codant RAIB. Ce ne sont que des manips de génétique qui ont validé le modèle que je viens de vous montrer. En résumé, nous avons décrit des situations relativement nombreuses où la maturation de protéines à fer soufre bénéficie de l'action des deux systèmes SUF et ISC. Ces deux systèmes intervenant dans leur maturation en fonction des conditions environnementales. Nous avons en particulier illustré le cas de cette protéine essentielle, et donc là on peut bien comprendre pourquoi elle va utiliser les deux systèmes. C'est parce que c'est une question là aussi de vie ou de mort, il faut absolument que cette protéine ait du fer soufre. Et nous avons parlé d'un cas de figure nouveau qui sont les complexes 1 et 2 qui ne sont maturés que par le système ISC, cette spécificité de substrat permettant aux bactéries de ne pas faire de force protomotrice et en particulier de résister aux antibiotiques. Je reprends le modèle, la diapo initiale pour vous rappeler qu'il y a 150 protéines, qu'elles sont toutes impliquées dans des processus très différents, mais comme a dit Marc, qu'elles ont une grande diversité structurale. Je vous ai parlé de la maturation de 4 ou 5 protéines. Je vous laisse maintenant imaginer le travail qui reste à faire, puisqu'il y en a 150. Donc, vous imaginez. Donc, la question est un vrai défi technologique. En fait, on ne va pas faire chaque protéine l'une après l'autre. Donc, nous avons des projets de protéomique, d'analyse à grande échelle pour essayer d'un peu comprendre comment toutes ces protéines reçoivent leur cluster fer-soufre. Ce que l'on a à peine abordé, c'est qu'on a une grande complexité du côté des facteurs qui font les clusters fer-soufre également. On a beaucoup parlé évidemment de SUF et de ISC, on a évoqué ERP, mais vous voyez, tout cela sont d'autres facteurs qui sont importants pour la biogénèse des fer-soufre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'inactivation de l'un ou l'autre de ceux-là est apparue comme étant potentiellement délétère pour la maturation de certaines protéines fer-soufre. Nous avons la notion maintenant de spécificité de substrat là aussi. Donc, devant cette grande complexité, il faut essayer de trouver des règles relativement simples, même si elles sont abusives et si elles sont trop simplificatrices. Si la question est comment un organisme peut maturer 200 protéines avec deux systèmes, deux et demi, si telle est la question, on n'avons pas, vous l'avez bien compris, la réponse. On l'a pour quelques cas de figure, quelques exemples. Mais disons que j'ai essayé de faire une synthèse des critères, des facteurs déterminants, à mon avis. Un des facteurs est moléculaire. Il s'agit de la production, l'efficacité des productions des fer-soufre par les machines, ISC et SUF. Mais récemment, j'ai été obligé d'ajouter et de l'affinité de ces machineries pour les substrats. On a montré avec le complexe 1 et 2 cette notion de spécificité de substrat. Un des critères évidemment importants est celui de la chimie de la structure, qui va nous dire la stabilité intrinsèque du cluster sur la protéine et donc la nécessité de l'importance de la contribution des machineries là aussi, notamment pour la demi-vie et l'importance, c'est ce que je cherchais, des conditions environnementales. Et un troisième critère est celui cellulaire, qui est celui de la demande cellulaire. On a depuis tout à l'heure martelé qu'il y avait 200 protéines à fer-soufre. Ça n'est pas vrai. Il y a 200 gènes qui codent potentiellement pour 200 protéines de fer-soufre, mais elles ne sont jamais synthétisées ensemble. À un moment donné, dans une condition donnée, on doit en avoir une cinquantaine, une soixantaine. Donc, si on change de condition et que soudainement on en a 150, ou que soudainement on n'en a plus que 5, évidemment la demande qui est imposée aux machineries va être extrêmement différente. Et cette variation de la demande est évidemment à prendre en compte pour essayer d'avoir une analyse du phénomène et éventuellement une capacité à prédire l'efficacité de maturation. Je vous remercie pour votre attention.